RFI Matin.
Bonjour Théo Renaudon.
Bonjour.
Et à la une donc de la revue de presse africaine, les droits de douane annoncés par Donald Trump la semaine dernière, qui entrent en vigueur ce mercredi. Et on le disait à l'instant, il n'épargne pas le continent africain.
Oui, deux pays durement touchés, le Lesotho et Madagascar, la quatrième plus grande île du monde, écope de 47% de droits de douane sur tous les produits entrant aux États-Unis. Mais pas de panique pour l'Express de Madagascar qui titre « Trumpette dans un verre d'eau », estimant que les conséquences les plus importantes de ces décisions seront pour les consommateurs américains. Le journal loue le bloc international qui se dresse devant le président américain. L'Express de Madagascar qui cite la présidente mexicaine. Trump tourne le dos à 7 milliards de consommateurs qui n'auront aucun mal à troquer iPhone contre Samsung, Levi's contre Zara, Ford contre Toyota, Nike contre Adidas. Il ne faut pas en faire un drame, rassure le journal. Même les petits pays exportateurs à l'image de Madagascar peuvent se tourner vers ces 7 milliards de consommateurs à travers le monde, hors États-Unis, qui risquent de vivre en autarcie avec leur politique protectionniste exacerbée. Fin de citation. Les conséquences de ces droits de douane à Madagascar, on y reviendra dans le journal de 9h.
Une autre décision de Donald Trump a également beaucoup de conséquences pour le continent africain, c'est l'arrêt des aides américaines au développement.
83% de l'USAID supprimée, l'Amérique principale donateur aux ONG humanitaires et autres programmes d'aide de l'ONU, a coupé le robinet dès le jour de l'investiture de Donald Trump. Et les premières conséquences sont là. Faire un choix entre les plus vulnérables des plus vulnérables, titre Le Monde Afrique. En RDC, par exemple, la guerre entre armées congolaises et M23 soutenues par le Rwanda provoque un afflux massif de réfugiés. Le Programme Alimentaire Mondial, le PAM, réduit les rations alimentaires de moitié. Sans financement supplémentaire, souffle une responsable au Monde, nous devrons stopper toute aide alimentaire à partir de juillet. Autre pays, le Soudan, victime d'une guerre dévastatrice entre armées régulières et forces paramilitaires. 9 millions de Soudanais déracinés ces deux dernières années. Là aussi, conséquences concrètes selon le HCR. Source Le Monde, plus de 500 000 déplacés pourraient perdre leur accès à l'eau potable, aux soins et à l'assainissement par manque de financement. Au Tchad, enfin, explique le journal, dans les camps autour de Farchana, non loin d'Adré, 160 000 réfugiés soudanais ne peuvent déjà plus être soignés correctement. Les ONG locales ont dû cesser leurs activités. Quand votre budget est soudainement amputé des deux tiers, on choisit de rester dans certains pays et d'en quitter d'autres, explique au Monde Afrique une responsable d'une importante ONG sous couvert d'anonymat.
Et puis la crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie observée et commentée dans toute l'Afrique de l'Ouest.
Oui, un rappel en deux mots, le Mali accuse l'Algérie d'avoir abattu un de ses drones à la frontière, ce qu'Alger dément. Depuis dimanche dernier, le dialogue semble rompu, ambassadeur des deux pays rappelé et espace aérien mutuellement fermé, voilà pour le tableau. Mais selon le site d'information guinéen Aminata, les causes de ce conflit sont bien plus profondes qu'un simple tir sur un drone. Il faut aller chercher l'accord d'Alger de 2015 pour comprendre, celui qui est, explique le journal en ligne, conçu comme un socle d'une stabilisation durable du Mali par l'intégration politique des séparatistes Touareg et qui pose comme base une gouvernance territoriale partagée. Fin de citation. Un accord duquel Bamako s'est retiré début 2024. Selon Aminata, ce retrait est interprété, je cite, par Alger comme un démantèlement volontaire d'un mécanisme de sécurité régionale auquel l'Algérie avait pourtant prêté son poids politique. Le journal guinéen Abadi analyse la crise actuelle, préfigure peut-être d'une recomposition politique durable du Sahel, oppose deux visions, celle d'acteurs étatiques souverainistes, militarisés et tournés vers de nouveaux partenaires, et celle d'une approche plus diplomatique incarnée par l'Algérie.
La revue de presse africaine de Théo Renaudon.
RFI, toute l'actualité. Clotilde Dumay.
Il est 6h48, en temps universel, nous sommes le mercredi 9 avril 2025 et dans l'actualité, donc ce matin, la bourse de Taïwan en baisse de près de 6% à sa fermeture, presque 4% à Tokyo, les marchés toujours très fébriles, alors que les derniers droits de douane voulus par Donald Trump sont entrés en vigueur, une soixantaine de partenaires des États-Unis concernés et la Chine qui est particulièrement visée, plus 104% au total pour Pékin. Joseph Kabila rentre en RDC, annonce faite dans une déclaration écrite transmise à RFI, pas pas de date évoquée pour le retour de l'ancien président congolais. Joseph Kabila, qui vit en exil depuis plus d'un an, selon l'un de ses proches, son retour pourrait se faire dans les prochains jours dans l'est du pays. Et puis du football européen encore aujourd'hui. Suite et fin des quarts de finale de Ligue des Champions, Barcelone face à Dortmund et le Paris Saint-Germain contre Aston Villa, coup d'envoi à 19h, temps universel. Enfin en France, les violences morales, sexistes et sexuelles dans le monde de la culture sont systémiques et persistantes. Conclusion d'une commission d'enquête parlementaire qui rend son rapport aujourd'hui et qui propose près de 90 recommandations pour tenter de faire face à ce constat. Ne donnez plus l'adresse avec boulevard du Général de Gaulle à Dakar. Et puisqu'il s'appelle désormais boulevard Mamadou Dia au Sénégal, les autorités ont décidé de débaptiser certaines rues portant des noms français. Même chose au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Mais comme le sujet est sensible au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a confié la renomination de ces rues à un Conseil national de la mémoire et de la gestion du patrimoine historique. Analyse avec Michel Benarous, géographe et chercheur associé aux universités de Genève et de Saint-Louis du Sénégal. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Michel Benarous, bonjour.
Bonjour.
Le boulevard Charles de Gaulle qui devient le boulevard Mamadou Dia, c'est tout un symbole, non ?
Ah, c'est un symbole et c'est une boucle qui se referme. Mamadou Dia, en mémoire, c'était le président du Conseil à l'époque de l'indépendance du Sénégal, dans un pouvoir bicéphale avec Senghor. Et Mamadou Dia était déjà opposé à De Gaulle.
Au Niger, il y a quelques mois, le nouveau régime a rebaptisé le boulevard Charles de Gaulle boulevard Djibo Bakary, du nom du Mamadou Dia du Niger, celui qui avait appelé à voter non à Niamey en 58.
Oui, tout à fait. Donc tout cet effort-là, oui, est fait au Niger, comme d'ailleurs dans les autres états de l'AES, au Burkina et au Mali.
Est-ce que derrière tous ces changements de nom, au Sénégal et dans les autres pays du Sahel, on peut parler d'une réappropriation de leur histoire par les habitants?
Oui, certains vont même jusqu'à parler de décolonisation symbolique. Mais sur la réappropriation de l'histoire, c'est tout à fait vrai. D'autant plus que c'est l'histoire des sociétés colonisées qui avait été occultée par cette toponymie coloniale, par ces pratiques de nomination commémorative toujours à la gloire de l'entreprise coloniale française. Donc les histoires locales avaient disparu, étaient devenues invisibles. Effectivement, elles reviennent en avant. Maintenant, pour parler de décolonisation, c'est peut-être un petit peu plus compliqué dans la mesure où le principe même de nommer des rues est une importation totalement coloniale. Et le principe de nommer des rues avec des ambitions idéologiques, une toponymie commémorative, ça aussi c'est quelque chose, c'est une importation coloniale qui tranche totalement avec les pratiques on va dire anciennes, mais qui existent encore, de nommer des grottes, des arbres, même à Dakar.
En 2022, quand il était maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko a débaptisé 5 avenues qui portaient des noms français en disant, en France, vous ne verrez jamais une rue Hitler. Que pensez-vous de cette comparaison ?
Je pense qu'elle appelle deux séries de remarques. La première, c'est qu'il utilise la toponymie comme un instrument de politique internationale. Ces renominations, elles ne s'adressent pas seulement aux Ziguinchorois, à ses administrés, elles s'adressent aussi au public international qui peut l'écouter et elles sont en particulier un outil dans ses relations avec la France. L'autre série de remarques, c'est le sort qui a été réservé à ces renominations. Au départ, à l'époque coloniale en tout cas, c'était très simple, les noms venaient d'en haut, c'était l'administration coloniale, le gouverneur et un conseil administratif qui donnaient les noms. Sous Senghor, c'était encore plus concentré, c'était par décret présidentiel que les noms changeaient. Progressivement, sous Abdou Diouf, puis surtout sous Ouad et ensuite Macky Sall, cette capacité de renommer était dévolue aux collectivités locales. Donc, a priori, Ousmane Sonko était tout à fait fondé, quand il était maire de Ziguinchor, à proposer des changements de nom. Mais le gouverneur, à l'époque, il n'avait a priori aucune capacité d'intervention dans ce dossier, a voulu contester les noms qui ont été invalidés par la Cour suprême. Donc ça montre que les collectivités locales n'ont jamais été jusqu'à présent épargnées par les sollicitations du pouvoir politique. Et ce qui change, et ce qui peut-être apaisera ou clarifiera les compétences de chacun, c'est le projet de rebaptisation qui a été annoncé par le président actuel en Conseil des ministres en décembre dernier et qui prévoit de créer une commission à laquelle participerait le Premier ministre, donc l'ancien maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, à laquelle participerait Conseil, le ministre des collectivités locales, le ministre de la Culture et le secrétaire d'État chargé du patrimoine historique en collaboration avec les collectivités locales. Donc il y a un équilibrage à trouver et peut-être qui clarifiera les choses, qui apaisera peut-être ces questions de renomination.
À Saint-Louis du Sénégal, il y a une statue du général Faidherbe, le colonisateur français du Sénégal, qui a failli être déboulonné en 2020 lors de la tempête provoquée par l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Et puis finalement, elle a résisté, elle est toujours là. Comment expliquez-vous ?
Oui, certains voudraient la conserver comme symbole historique, d'autres voudraient l'enlever. On se focalise parfois sur l'inscription qui est au bas de la statue sur son socle, qui était évidemment intenable, qui disait « Au gouverneur Faidherbe, le Sénégal reconnaissant ». Ça, je ne pense pas que ça va durer très longtemps. Mais on se retrouve à nouveau dans une symbolique où, pour faire place nette, si j'ose dire, les collectivités locales réemploient finalement des techniques qui sont d'importation coloniale. De la même manière que la domination des rues, les statues commémoratives, c'est pas quelque chose qui a une longue existence en Afrique. Changer une statue pour une autre, c'est réemployer des techniques, des pratiques qui finalement sont peut-être l'héritage colonial le plus profond.
Michel Benarous, merci.
Michel Benarous, géographe et chercheur associé aux universités de Genève et de Saint-Louis du Sénégal, interrogé par Christophe Boisbouvier. Allez, dans quelques minutes, un nouveau journal, mais on retrouve d'abord Maman. Et vous nous dites ce matin, Maman, eh bien que la crise des droits de douane a des répercussions jusqu'au Gondwana.
Oui, un très démocratique république, c'est le Gondwanais lambda qui a réagi le premier à la hausse des droits de douane unilatéralement décidée par le président des États-Unis.
Ben là, je crois que les douaniers des États-Unis sont en train de se frotter les mains. Hein. C'est le jackpot pour eux.
Bon, ça, je te le fais pas dire, mon cher Gondwanais lambda. Le président états-unien a calculé que grâce à l'augmentation des taxes douanières, des dizaines de milliards vont affluer dans les caisses du trésor public. Hein.
Ah, mais qu'est-ce que tu racontes là? Moi, je te parle de jackpot pour les douaniers et toi, tu me parles de trésor truc là. Les milliards là, ils vont atterrir dans les poches des douaniers états-uniens qui vont devenir encore plus riches.
Attends, Gondwanais lambda, c'est toi qui racontes n'importe quoi là. Sache que dans un pays normal, les milliards récoltés par les services de douane n'atterrissent pas dans les poches des douaniers, hein, mais dans les caisses de l'État. Dans un pays normal, il n'y a pas de douaniers milliardaires, mon ami. Les douaniers sont des fonctionnaires de l'État qui travaillent pour l'État et pour le bien collectif. Bon, je sais bien qu'en très démocratique république, les choses sont upside down, inside out. Mais mon cher Gondwanais lambda, ne pense pas que ce soit le cas partout dans le monde. Je sais ce qu'il se passe dans ta tête en ce moment-là. Tu es en train de te demander si finalement, dans ce genre de pays normal-là, si ça sert à quelque chose de devenir douanier. Parce qu'il y a un dicton gondwanais qui dit qu'un douanier n'est pas un vigile devant une banque qui passe ses journées debout devant la porte à regarder l'argent entrer et sortir sans avoir sa part. Je comprends pourquoi une clameur s'est levée des bureaux des douanes gondwanaises quand le président états-unien a annoncé ses hausses de droits de douane contre les produits de notre pays, le Gondwana. Paradoxalement, aux douanes gondwanaises, le calcul a été très vite fait. Le Gondwana va prendre des mesures de rétorsion et lui aussi va augmenter les taxes contre les produits états-uniens entrant au Gondwana. C'est beaucoup d'argent tout ça. Beaucoup d'argent à se partager entre douaniers gondwanais après avoir bien évidemment laissé qui de droit prendre sa part. Le président des États-Unis, lui, je t'ai dit, il a fait ses calculs. Il s'est dit que, bon, les gens vont venir installer des usines dans son pays pour éviter l'augmentation de droits de douane. Et ainsi, ils vont créer des richesses et des emplois dans son pays. Ça va générer des impôts dans son pays que les agents des impôts vont collecter pour le bien collectif de son pays.
Tu dis quoi, là? Toi, vraiment, tu divagues de plus en plus, hein, mon pauvre.
Eh oui, mon cher Gondwanais lambda, je sais bien qu'en très démocratique république, avec les douaniers, mais les agents des impôts font partie du club restreint des milliardaires. Mais tu sais, dans un pays normal, ils sont juste des fonctionnaires comme les autres, avec un boulot normal et un salaire normal. À demain.
À demain, Maman. Dans un instant sur RFI, l'actualité internationale.
L'Opinion et le Conseil français des investisseurs en Afrique organisent le 29 avril prochain le forum Investir en Afrique autour du thème L'entreprise, moteur d'une croissance durable. Un événement incontournable pour explorer les opportunités économiques et sociales du continent avec un focus sur la croissance durable. Plus d'informations et inscriptions sur le site de l'Opinion, rubrique Événements, le 29 avril prochain, à Paris, en partenariat avec RFI. Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Il n'est même pas besoin de tendre l'oreille, le mot « woke » est dans toutes les bouches, instrumentalisé, déformé, conspué, mais que veut-il dire ? Comment il s'est imposé dans la parole publique ? Entretien avec François Cusset, philosophe et spécialiste de la civilisation américaine.
Les langues s'expriment de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Dans le club de C'est pas du vent, les journalistes de RFI en français et en langues étrangères et ceux d'autres médias reviennent sur les sujets environnementaux qui les ont marqués. Ils partagent les coulisses de leur travail et commentent les films produits par les vidéastes du réseau hip-hop.
C'est pas du vent.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI. Radio Foot International, du foot, mais pas que.
Bah comme on dit en NBA, puisque les playoffs vont bientôt débuter, bah on arrive dans le money time, quoi.
Mmh. Et c'est une bonne formule, ça, Nabil.
Ça n'a jamais été utilisé.
Je crois pas. Hein.
Et je la dépose avant que tu espères.
T'aurais pu faire parler de la théorie du ketchup
utilisé un jour.
Radio Foot International.
Ouais. T'aurais pu nous faire la théorie du ketchup aussi, tu sais, quand tu... Ça tombe, ça tombe, quoi.
Non, je l'ai faite pour Algérie-Mozambique, on a gagné 5 ans.
Du lundi au vendredi à 16h10 et 21h10 TU sur RFI.